ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Salwa Jafari et Nicolas Pineau en votre compagnie pour cette édition du 3 janvier. Au sommaire ce soir...
À Kinshasa, nouveau report à demain, des discussions entre les signataires de l'accord sous l'égide de la CENCO. La majorité présidentielle réclame déjà plus d'inclusion.
Iteka Mouet, la grande ONG de défense des droits de l'homme, a été définitivement radiée par le pouvoir burundais.
Au Tchad, le gouvernement exige que les enseignants reprennent les cours immédiatement, mais les écoles sont restées fermées ce mardi.
Dans le reste du monde, Donald Trump tape du poing sur la table dans le dossier du nucléaire nord-coréen. Washington ne laissera pas Pyongyang avoir l'arme nucléaire, prévient le prochain président américain.
Et en ce début d'année, nous irons à Conakry pour écouter les espoirs et les attentes des Guinéens.
Nos efforts s'attellent aussi à la reconnexion de l'économie rurale et d'une manière générale au soutien au monde agricole.
Sans oublier nos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le Journal des Sports. Chopu Mouting n'ira pas à la CAN avec le Cameroun. Mais tout d'abord, le journal sur VOA Afrique.
L'accord politique déjà critiqué à Kinshasa. La majorité présidentielle a montré les premiers signes de désaccord ce mardi en conditionnant notamment...
Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, a expliqué que les évêques devaient d'abord présenter leur rapport au président Kabila et que ce dernier devrait reconduire leur mandat. Conséquence, les discussions sont reportées à demain, comme l'explique l'abbé Donatien Anchol, porte-parole de l'épiscopat congolais.
Nous venons d'assister à la signature de son Excellence Monsieur Steve Ndikaï. Ce n'est que logique, ce n'est que cohérence. C'est un travail auquel il a beaucoup contribué. Il n'était pas disponible, disposé de le signer avec les autres. Et quand il vient, sans prendre connaissance du texte, c'est signe qu'il y a travaillé. Il en est de même pour d'autres qui n'ont pas encore signé, que ce soit les MNC, que ce soit les autres collègues de l'Excellence Ndikaï. Ils sont présents dans l'accord, c'est leur accord. Mais pour l'une ou l'autre raison, nous espérons, on est en pourparlers avec eux, ils viendront, ils pourront venir signer après. Donc, il ne peut pas s'agir de manque d'inclusivité dans la mesure où même leurs amendements se trouvent dans cet accord. Les évêques ne ferment la porte à personne, on est en pourparlers avec les uns les autres. C'est une dynamique. Le plus important, c'est qu'ils se retrouvent dans le texte qui a été signé.
L'abbé Donatien Chol est porte-parole de l'épiscopat congolais au micro de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
À Bujumbura, clap de fin pour la plus ancienne ligue burundaise des droits de l'homme. Iteka a été définitivement radiée de la liste des ONG locales autorisées à travailler au Burundi.
Cette association, qui veut dire dignité en Kirundi, avait été créée il y a 25 ans. Les détails avec Dili Diko.
Iteka, dignité en Kirundi, agréée depuis 1991, était suspendue d'activité depuis le début de la crise déclenchée par la décision en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat qu'il a remporté en juillet de la même année. Pour enfoncer le clou, les autorités ont décidé ce mardi de dissoudre la Ligue en réponse à la publication en novembre d'un rapport coécrit avec la Fédération internationale des droits de l'homme qui faisait le point sur les répressions gouvernementales et les violations des droits de l'homme. Une ordonnance du ministère de l'Intérieur déclare Iteka définitivement radiée de la liste des associations sans but lucratif œuvrant au Burundi. En chair, Nicoya Guizé, président d'Iteka, actuellement en exil, affirme ne pas être surpris de cette décision. « Nous n'allons pas renoncer à notre mission », a-t-il promis. Les grandes figures de la société civile et les responsables des médias indépendants burundais sont eux aussi en exil.
On ne l'apprend qu'aujourd'hui, mais 3 soldats nigériens ont été tués, 7 blessés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque de position de l'armée par Boko Haram dans le sud-est du Niger. Information du colonel Mustapha Ledrou, porte-parole du ministre nigérien de la Défense.
Adoption du projet de loi modifiant le code électoral au Sénégal. Suite à la révision constitutionnelle validée par référendum le 20 mars dernier, le texte a été adopté à une écrasante majorité.
Le nombre des députés sénégalais passe donc de 150 50 à 165. Les 15 nouveaux sièges sont attribués à la diaspora, avec la création de 8 nouveaux départements électoraux à l'étranger. Des députés de l'opposition ont voté contre le texte ou se sont abstenus, estimant qu'il n'y avait pas besoin d'augmenter le nombre de députés, car cela impliquera notamment des rémunérations.
Et puis, au Mozambique, l'opposition crée la surprise en prolongeant de 2 mois un cessez-le-feu unilatéral dans le but de favoriser les pourparlers de paix en panne depuis des mois. L'ancienne rébellion de la Renamo avait repris les armes en 2013, avait annoncé déjà une trêve le mois dernier, l'appelant un geste de bonne volonté. Les explications d'Abourahmane Dia.
Le chef de la Renamo, Alfonso Dhlakama, a reconnu qu'il y a eu quelques petits incidents, mais que la trêve que son mouvement vient de prolonger s'est globalement bien passée. Avec cette prolongation, les armes devraient se taire jusqu'au 4 mars. Pendant cette période, la Renamo dit espérer un environnement propice à l'accélération des pourparlers avec le gouvernement à Maputo. Entamées fin mai 2016, les négociations visent à mettre fin au conflit larvé qui oppose l'armée à la Renamo. Le gouvernement n'a pas immédiatement réagi à l'annonce surprise de la Renamo, mais hier, le président Filipe Nyusi avait estimé que la responsabilité d'un éventuel prolongement de la trêve incombait à la Renamo. Le Mozambique, déchiré de 1976 à 1992 par une sanglante guerre civile qui a fait 1 million de morts, vit une nouvelle période d'instabilité depuis 2013. Le chef de la branche armée de la Renamo reste retranché dans les montagnes et réclame un partage du pouvoir après les législatives de 2014, remportées par le Frelimo, le parti au pouvoir, mais dont elle conteste les résultats. Mi-décembre, les médiateurs avaient quitté le pays sur un constat d'échec.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Séoul a jugé que le président américain élu Donald Trump avait adressé à la Corée du Nord un avertissement clair en balayant ses revendications de progrès quant à son programme nucléaire balistique. Le récit de Nathalie Barge.
La Corée du Nord vient d'affirmer qu'elle en était aux dernières étapes du développement d'une arme nucléaire capable d'atteindre le territoire américain. Mais cela n'arrivera pas, a déclaré Donald Trump hier dans un tweet. Dans son discours du Nouvel An, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que son pays en était aux dernières étapes avant le lancement test d'un missile balistique intercontinental, ajoutant que Pyongyang avait renforcé de manière significative son arsenal nucléaire cette année. Jusqu'ici, Donald Trump n'avait jamais fait clairement connaître sa position sur le sujet. Le message du président élu Trump peut être considéré comme un avertissement clair, a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Jung-hyuk. Pour lui, la politique américaine envers la Corée du Nord va rester en grande partie inchangée. Leur position sur la nécessité de sanctions contre la Corée du Nord demeure inébranlable, a-t-il estimé.
Plusieurs pays du Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont célébré ce mardi, dans l'émotion, les funérailles des victimes de l'attentat d'Istanbul. Pour la plupart des jeunes dont la vie a été fauchée tragiquement le soir du Nouvel An, les pays arabes et Israël ont payé un lourd tribut. Au moins 20 des 39 personnes tuées dans l'attaque revendiquée par le groupe État islamique en étaient originaires. Pendant ce temps, la chasse à l'homme se poursuit. Les autorités ont arrêté plusieurs personnes, 16 personnes plus exactement. Parmi eux se trouve l'épouse du suspect.
Le ministre allemand de l'Intérieur a dévoilé mardi les grandes lignes d'une réforme en matière d'expulsion de migrants et de renforcement du renseignement intérieur pour parer aux dysfonctionnements mis en évidence par l'attentat de Berlin. Le ministre conservateur Thomas de Maizière insiste sur la nécessité de renforcer les pouvoirs de l'État fédéral en matière de renseignement intérieur, actuellement partagé par les 16 États régionaux. Il propose en outre de multiplier les compétences de la police fédérale et de mettre sur pied un centre de crise et qui chapeauterait l'ensemble des services concernés par les questions de sécurité liées aux migrants et l'antiterrorisme.
À Londres, nouvelle embûche sur le chemin du Brexit. L'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne a démissionné mardi, moins de 3 mois avant le déclenchement du processus. Ivan Rogers, nommé en novembre 2013 par l'ancien Premier ministre David Cameron, était supposé jouer un rôle de premier plan dans les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Guerre des gangs au Brésil, 56 détenus massacrés dans une prison de Manaus, un véritable bain de sang. Les détenus ont été décapités. Les mutineries sont fréquentes dans les prisons surpeuplées du Brésil qui sont contrôlées en interne par ces factions criminelles. Ce soulèvement pendant lequel 12 surveillants ont été pris en otage a duré 15 heures dans le complexe pénitentiaire Anicio Jobin, situé en périphérie de Manaus.
Et puis au Yémen, 16 membres des forces gouvernementales ont péri lors d'affrontements séparés avec des combattants d'Al-Qaïda et des rebelles. Pays dévasté par près de 2 ans de guerre, 15 combattants d'Al-Qaïda et 9 rebelles chiites houthis ont péri dans ces violences survenues dans des régions du sud de ce pays pauvre de la péninsule arabique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est tout de suite dans la Minute Éco avec John Linden.
En RDC, la croissance devrait atteindre 2,9% cette année contre 7,7% de croissance annuelle moyenne entre 2010 et 2015. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la Banque centrale. Le pays, dont 95% des revenus d'exportation proviennent des industries extractives, a subi de plein fouet la chute des cours mondiaux des minerais en 2014 et 2015, principalement due à la baisse de la demande chinoise. La finance islamique arrive au Maroc. La Banque centrale marocaine et le ministère des Finances ont autorisé la création de 5 banques islamiques dites participatives. Des crédits halal et des comptes conformes à la charia seront donc bientôt disponibles dans le pays. Selon Standard & Poor's, cité par Usine Nouvelle, la finance islamique pourrait représenter entre 10 et 20% du système bancaire du Maroc. Au Nigeria, le riz en plastique était en réalité du riz de contrebande. Le 21 décembre, les douanes du Nigeria avaient saisi 102 sacs de 50 kg de présumé riz en plastique destiné à être vendu à l'approche des fêtes de fin d'année à Lagos. Selon un communiqué des douanes nigérianes, des analyses ont permis d'établir que le riz incriminé n'était pas en plastique, mais plutôt contaminé par des micro-organismes.
Place au sport avec vous Nicolas. Et on commence avec cette défection de taille pour le Cameroun à 2 semaines de la CAN au Gabon.
Oui, Salois, l'attaquant de Schalke 04, Eric Maxime Choupo-Moting, s'est retiré de la sélection camerounaise selon un communiqué de son club. Il ne participera donc pas à la CAN 2017 au Gabon, toujours prévue entre le 14 janvier et le 5 février prochain. L'Algérien Mabil Bentaleb et le Ghanéen Baba Rahman, eux, disputeront bien le tournoi continental avec leurs sélections respectives, ajoute Schalke 04. On rappelle que plusieurs joueurs camerounais figurant dans la préliste de 35 joueurs du sélectionneur Hugo Brousse ont décliné la sélection, à l'image du milieu défensif de Lille Ibrahim Amadou ou encore du défenseur de Liverpool Joël Matip.
Sadio Mané lui sera bien à la CAN avec le Sénégal.
Le meneur sénégalais de Liverpool, transféré cet été de Southampton pour 40 millions d'euros, laisse son équipe des Red Devils, deuxième de la Première Ligue. Sadio Mané, on le rappelle, a inscrit 9 buts depuis le début de la saison.
Et Nicolas, les éléphants de Côte d'Ivoire bénéficieront d'un budget de 3,9 milliards de francs CFA cette année.
Un budget en hausse pour leur stage de préparation et leur participation à cette CAN 2017 au Gabon. L'État ivoirien respectera ses engagements vis-à-vis de la Fédération de football afin que l'équipe nationale se déplace pour défendre son titre, a annoncé le ministre des Sports et Loisirs Albert-François Amika sur les ondes de la RTI. Comparé à celui de 2015, ce budget est en hausse de 400 millions de francs CFA.
Tennis à présent, retour avec la compétition réussie pour Serena Williams.
Oui, l'américaine numéro 2 mondiale s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi d'Auckland. C'est un tournoi qui marque son retour à la compétition. Après 4 mois d'absence, elle s'est imposée en 2 manches contre la française Pauline Parmentier, 69e joueuse mondiale. Le score 6-3, 6-4. On rappelle que la dernière apparition sur les cours de l'ex numéro 1 mondial, détentrice de 22 titres du Grand Chelem, remontée à sa demi-finale perdue de l'US Open contre la tchèque Karolina Pliskova, c'était en septembre dernier.
NBA championnat de basket nord-américain.
L'arrière ailier des Chicago Bulls, Jimmy Butler, a inscrit, tenez-vous bien, 52 points lors de la victoire de son équipe contre Charlotte, 118-111. En tête de la conférence Est, Cleveland s'est sorti du piège des Pelicans de la Nouvelle-Orléans en s'imposant sur son parquet 90-82.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous êtes toujours en notre compagnie sur Le Monde aujourd'hui. Au Tchad, les écoles publiques étaient fermées ce mardi, jour de rentrée scolaire. À l'origine, une grève des enseignants qui revendiquent des arriérés de salaire. Pour en parler, John Linden a joint Djamena Girayo-Jeremy. Il est président du syndicat national des enseignants et chercheur du supérieur.
Les enseignants et chercheurs supérieurs et ceux du secondaire sont partis en grève pour revendiquer d'abord leurs arriérés de primes, indemnités et autres. Et subitement, un matin, le gouvernement sort des mesures d'austérité. Donc, c'est les raisons qui nous ont conduits à décider d'entrer en grève. Et maintenant, suite à cette grève, vous voulez que le gouvernement négocie. Le gouvernement n'a pas négocié. Et là, on vient de sortir encore les 17e mesure avec la loi 008, nous donnant au moins 3 jours de grève par mois. Donc, tout ça n'est pas de nature à dialoguer. Et c'est la raison pour laquelle... ce matin, il n'y a pas eu d'argument pour la prise de cheveux des amphis.
Combien de temps cela va-t-il durer, à votre avis?
Donc, nous demandons au gouvernement d'ouvrir le dialogue et bon, qu'on s'assied, qu'on négocie et puis on a la possibilité de lever ce modèle de grève-là pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre.
Est-ce que le gouvernement a marqué une certaine flexibilité?
Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement continue à durcir le ton.
Et si cela continue, qu'est-ce que vous allez faire?
Bon, ben, nous avons la décision de la base, donc nous allons continuer à rester à la maison. Et si le gouvernement ne paye pas les salaires, bon, ben, on finira de rester avec son argent. Et puis, nous allons demander en quelque sorte aux travailleurs et travailleurs de se reconvertir dans les petits métiers.
Et qu'en est-il des élèves, des enfants qui doivent aller à l'école?
Bon, mais la responsabilité incombe au gouvernement. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir le dialogue. Eh bien, jusque-là, le gouvernement est resté en marbre, donc il n'y a pas d'ouverture de dialogue possible. Donc, nous aussi, je ne sais pas, nous restons aussi sur notre position.
Et qui est-ce qui doit s'occuper de ce dialogue, à votre avis? Est-ce que vous avez un représentant ou des gens qui sont en contact avec le gouvernement, ou alors il n'y a pas de dialogue du tout?
Non, il n'y a pas de dialogue du tout. Celui qui doit ouvrir le dialogue, c'est le Premier ministre. Donc, le Premier ministre l'a reçu 2 ou 3 fois, et bon, mais c'est des communications qu'il ne fait que nous donner. Donc, c'est pas de nature à ouvrir un dialogue.
C'était Girayo Jeremy, président du Syndicat national des enseignants et chercheurs.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Aux États-Unis, la rentrée parlementaire, la 115e session du Congrès américain, aujourd'hui fait notable. Les Républicains contrôlent aussi bien la Chambre des représentants que le Sénat et ils ont promis d'abroger plusieurs lois votées sous l'administration Obama. Mais la polémique s'installe déjà avec la décision des Républicains de voter une loi pour limiter les pouvoirs du bureau d'éthique du Congrès, chargé de veiller sur les bonnes pratiques au sein de l'institution. Abdourahmane Dia a joint Lorenzo Morris, il est politologue à l'université Howard de Washington. Il revient sur certains de ces changements.
Oui, c'est un changement énorme pour la politique de notre pays, parce que c'est aujourd'hui que l'investiture du Congrès commence avec une majorité dans les deux chambres, les chambres de représentants et le Sénat, fortement contrôlé par le Parti républicain, un parti qui a des tendances fortement conservatrices et qui est lié directement avec notre président élu, qui est aussi évidemment conservateur. Alors, ça serait un changement visible et tangible pour le pays à la suite de la présidence d'Obama.
Et justement, l'une des premières décisions des républicains, c'est de limiter les pouvoirs du bureau d'éthique du Congrès. Quelle est votre lecture de cette décision?
Ça nous donne les premières évidences d'une politique qui vont éliminer toutes les protections, toute la capacité du gouvernement fédéral à intervenir facilement dans les États qui ont essayé de limiter l'accès au bureau de vote des minorités, qui ont essayé de limiter l'accès à l'avortement pour les femmes, qui ont essayé dans tous les États de limiter beaucoup des droits civiques. Ça serait une indication, pas seulement au niveau fédéral d'État, mais aussi au niveau fédéral où il prend une menace d'éliminer plusieurs bureaux dans le commerce qui protège les consommateurs éliminer aussi les bureaux de droit de vote au niveau fédéral.
L'un des objectifs des parlementaires républicains, c'est également de supprimer Obamacare, le programme de santé du président Obama. Vous pensez que la tâche sera facile pour eux?
La tâche ne serait pas facile parce que bien qu'ils ont déjà plusieurs projets de loi pour éliminer ce qu'on appelle Obamacare, il y aura énormément de défis. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des dépenses qui sont liées directement aux bénéfices des services de santé. Et il ne serait pas possible d'éliminer sans des conséquences sévères pour le pays en termes de santé. En même temps, il serait visé par les électeurs les plus extrémistes qui ont voulu l'élimination complète sans prendre compte des difficultés. Alors, ils vont risquer de perdre leurs électeurs en même temps qu'ils hésitent ou qu'ils prolongent le processus d'élimination. Il ne serait jamais complète, à mon avis.
Lorenzo Morris, politologue à l'Université Howard de Washington.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Rétrospective 2016 et perspective 2017 sur VOA Afrique. Partons pour Conakry, où notre correspondant Zakaria Camara a recueilli les espoirs et les attentes des Guinéens. Voici son reportage.
L'une des définitions de la Guinée de 2017 pourrait se trouver dans le discours de nouvel an du président Alpha Condé. État de droit, démocratie, paix, meilleures conditions de vie des Guinéens. Voilà quelques objectifs définis mais qui demandent des actions.
Nos efforts s'attellent aussi à la reconstruction de l'économie rurale et d'une manière générale au soutien au monde agricole. Cela permettra de consolider notre autosuffisance alimentaire à travers l'appui aux cultures de rente et la réalisation d'infrastructures d'aménagement et de maîtrise de l'eau pour l'agriculture. En matière d'énergie, le lancement de la construction du barrage de Swapiti d'une capacité de plus de 450 MW et la construction d'autres barrages comme ceux de Kokoutamba et des barrages régionaux prévus à Kobiduaf, Farankounedou vont permettre de desservir la Haute-Guinée et la Guinée forestière.
Le président Condé peut aussi compter sur le plan de relance, résilience post-Ebola soutenu par les partenaires internationaux.
Il s'articule autour de plusieurs axes, la stabilisation de l'économie nationale, le renforcement du système de santé du pays, l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'énergie, l'agriculture, la construction d'habitats sociaux.
2017, c'est aussi de la culture. Conakry sera la capitale mondiale du livre. Mais c'est une année électorale avec l'organisation prochaine des élections locales. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Allez, partons au Cameroun où l'année 2016 s'achève avec un taux de croissance économique de près de 6%. Ce pays qualifié de moteur de l'économie en Afrique centrale compte maintenir ce taux de croissance dans un environnement hostile en raison de la guerre contre Boko Haram et de la chute du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Les explications depuis Yaoundé de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Selon la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, le taux de croissance en Afrique centrale est moins de 2%. Mais le Cameroun se retrouve avec près de 6% à cause de la diversification de son économie. C'est donc ce taux de croissance, contrairement à celui de 5,7% en 2015, que le Cameroun veut maintenir. Pour y arriver, le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, revient sur les différents axes à prendre en considération.
Nous avons voulu soutenir davantage la croissance de notre pays et nous pensons que le secteur privé a besoin d'un accompagnement, d'un appui et des incitations importantes ont été allouées au secteur agricole dans notre pays. Il s'agit d'exonération de la TVA, d'exonération des droits d'enregistrement, d'exonération des frais de mutation, autant de choses qui, à notre avis, vont participer à doper le secteur agricole de notre pays, un secteur qui participe à la croissance, un secteur qui produit suffisamment de ressources en devises. Mais nous voulons également garantir une exécution satisfaisante de ce budget 2017 en veillant à ce que la qualité de la dépense soit une priorité, en veillant à ce que les dépenses fiscales soient maîtrisées et surtout orienter davantage les ressources d'investissement vers la réalisation des projets structurants.
Dans un premier temps, le gouvernement veut maintenir son cap sur les projets miniers et hydroélectriques engagés depuis quelques années. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djomessé, explique les enjeux des projets routiers.
D'abord, quand la route passe, le développement suit. Comme vous le savez, il faut que nous réussissions à relever l'état de service de nos infrastructures routières et que nos routes ne se coupent plus jamais. Vous noterez que dès 2017, nous avons introduit la gestion de nos routes par niveau de service. C'est-à-dire, quand une route est de construction ou de réhabilitation même récente, il va falloir installer sur cette route une entreprise performante qui, par un travail d'anticipation, va prévenir les dégradations, qu'elles soient en terre ou alors qu'elles soient bitumées. Maintenant, comment faire pour trouver la bonne entreprise? Et c'est ça la véritable problématique. Trouver la bonne entreprise suppose donc que nous choisissions parmi celles qui sont performantes. Or, il y en a très peu.
Des efforts seront également fournis sur les plans sportifs avec la mise en place des infrastructures en vue de la tenue prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Par ailleurs, le gouvernement promet une amélioration de la qualité de l'éducation et de la santé. L'année 2017 fera aussi l'objet de la lutte contre le chômage et sous-emploi des jeunes, dans la mesure où le gouvernement annonce des projets visant à réduire le taux de chômage à moins de 16%. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et 24K.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky raise up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hits a toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad people. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
C'est la fin de cette édition. Michel Joseph était à la mise en onde, à la console Ashwan Kale. Présentation Salwa Jafari et Nicolas Pinot.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook. Près de 2,5 millions de fans sur la page VOA Afrique. Rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour être branché avec l'info en continu 24 heures sur 24 sur VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.